Vous savez, il est difficile de croire que nous sommes en 2023, à l'aube d'une nouvelle année. Dire que j'ai terminé le lycée en 1960. Où sont donc passées les 63 années qui se sont écoulées depuis? On dirait que 2023 va s'avérer être une année très intéressante. L'année dernière était intéressante elle aussi, de même que l'année d'avant. Durant les annonces, nous avons entendu parler de ces tempêtes en Californie qui ont été très violentes. La semaine dernière, j'ai parlé à Roger Bardo, qui se trouve au nord de Los Angeles, ainsi qu'à Dr. Fall. Tous deux m'ont dit que cela avait été très éprouvant. Puis, toujours la semaine dernière, nous avons eu des tornades dans l'État d'Arkansas. Comme si cela ne suffisait pas, voilà que le Congrès américain fait face au chaos et à des difficultés. Cela sera très intéressant à suivre. Une année alors que nous observions la fête des tabernacles en Jamaïque, j'avais acheté un journal en me rendant aux assemblées, et on y mentionnait ces tempêtes qui frappaient la côte est des États-Unis, notamment la Nouvelle-Angleterre, et tout particulièrement le Massachusetts où nous vivions. On y voyait cette grande flèche juste en face de l'endroit où nous vivions, ce qui n'était guère assurant. J'ai donc appelé le voisin, à qui nous avions confié les clés de notre maison avant de partir, et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Il m'a répondu « Des arbres sont tombés tout autour de votre maison, mais rien ne l'a touché. » Puis il a ajouté « Nous avons aussi transféré le contenu de votre congélateur dans le nôtre. » Nous étions donc à la fête pour adorer Dieu, et voyez ce qui nous arrive. Cependant, et je le mentionnerai tout à l'heure, il ne faut pas oublier ces promesses que Dieu fait à ceux qui accomplissent sa volonté, à ceux qui observent ses jours saints. Par ailleurs, dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit que « la prière agissante du juste a une grande efficacité ». Ainsi, lorsque, dans les annonces, on nous parle de ces demandes de prière pour les gens de la Californie, de l'Arkansas ou de l'Alabama, si nous prions tous ensemble, Dieu entendra ces prières. Oui, et particulièrement si nous prions pour des frères et des sœurs, nous pouvons rappeler à Dieu cette promesse d'intervention qu'il nous fait dans Jacques chapitre 5, verset 16. Il semble donc que nous aurons un tas de défis à relever durant l'année à venir. Avant de débuter ce sermon, j'aimerais tout d'abord poser quelques questions afin de nous aider à nous concentrer sur certaines choses qui devront retenir notre attention. Cela sera nécessaire pour que nous puissions relever les défis auxquels nous serons confrontés non seulement cette année, mais aussi dans les années à venir. Ainsi, posons-nous la question, quelle est l'une des qualités les plus importantes que Dieu veut nous voir développer durant cette vie? Est-ce l'amour? Cela est important. Est-ce l'humilité? Cela est important. Est-ce la foi? Cela est également important. Est-ce la patience? C'est tout aussi important. Est-ce l'endurance? Eh bien, ça aussi c'est important. On pourrait aussi demander quelles qualités il nous faudra développer pour être dans le royaume de Dieu. Nous pourrions encore énumérer un certain nombre d'autres qualités, mais tournons-nous brièvement vers Matthieu chapitre 6, verset 33, un verset qui vous est sûrement familier, un verset clé qui nous donne une idée de ce que nous devons développer. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il nous faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Mais qu'est-ce que la justice? Oui, qu'est-ce que la justice? Eh bien, c'est précisément de cela que nous voulons parler dans ce sermon. Nous verrons quelques autres passages dans un instant, mais penchons-nous tout d'abord sur Éphésiens chapitre 6, verset 14, où Paul parle de se revêtir de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est cette cuirasse? De quoi est-elle faite? Pourquoi nous faut-il la revêtir? Un autre passage intéressant qui nous demande de nous revêtir de la cuirasse de la justice est 1 Jean chapitre 3, verset 10, et nous l'étudierons un peu plus tard. Mais notez d'ores et déjà qu'il y ait dit que nous devons pratiquer la justice, sinon nous passerons pour les enfants du diable, ce qui donne évidemment à réfléchir. À nouveau, qu'est-ce que la justice? Pourquoi devons-nous nous revêtir d'une cuirasse de justice? Pourquoi devons-nous pratiquer la justice? C'est ce dont je veux parler dans le sermon d'aujourd'hui. Le titre de ce sermon sera « L'importance de la justice ». Je répète, « L'importance de la justice ». Je vais aborder 5 points dans ce sermon et nous nous limiterons à ces 5 points tout en notant certains passages des Écritures que je ne ferai que citer, car nous ne pourrons pas tous les lire faute de temps. En notant les passages pertinents à chacun de ces 5 points, vous pourrez alors, en les lisant, faire une étude biblique personnelle fort intéressante. Dans le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage de découverte. Alors, venez à bord et apprêtez-vous à faire un voyage pour découvrir les richesses de la justice. Oui, les richesses de la justice qui sont enfouies dans la parole de Dieu. Car lorsque vous les déterrerez, cela vous ouvrira vraiment les yeux. Je lisais le psaume 1 il y a quelques semaines, un psaume où il est justement question de justice, et cela m'a fait penser que ce serait une étude biblique fort intéressante. J'ai donc commencé à travailler sur l'étude biblique, mais cela m'a finalement conduit à donner ce sermon. Entre nous, c'est incroyable ce qu'il y a là. Oui, incroyable. Je veux donc vous emmener dans un voyage de découverte pour que vous puissiez découvrir les richesses de la justice enfouies dans la parole de Dieu, afin que vous puissiez expérimenter et apprécier ces trésors de la justice. Si vous trouviez quelque chose d'enterré dans votre jardin, par exemple un seau rempli de pièces d'or, ne seriez-vous pas excité et impatient d'en explorer le contenu? Eh bien, selon moi, faire l'exploration de la justice devrait constituer une expérience similaire. D'autant plus que les bénéfices qui en résulteront seront vécus sur le champ, et puis nous en aurons besoin dans le royaume de Dieu à venir. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour travailler sur ces choses. Cela pourrait être beaucoup plus court que vous ne le pensez. Qui sait? Attaquons donc le premier point. Quelle est l'importance de la justice? Oui, quelle est l'importance de la justice? Vous savez, en grandissant, lorsque j'allais aux assemblées avec mes parents, j'entendais bien ce mot « justice », mais il n'avait pas beaucoup de sens pour moi. J'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un qui allait à l'église tous les dimanches ou tous les samedis, de quelqu'un qui se sentait bien dans sa peau. Selon moi, cela concernait des justes qui ne font pas ceci ou cela, mais plutôt telle ou telle autre chose. Pour moi, c'était un peu nébuleux. À nouveau, quel est l'importance de la justice. Tantôt nous lisions Matthieu 6, verset 33. Si vous lisez les versets qui précèdent, Jésus y parle de priorité. Il dit que certaines personnes vont s'inquiéter de ce qu'elles vont manger aujourd'hui ou demain et de ce qu'elles vont porter le lendemain. Il ajoute que si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, vous n'aurez pas à vous préoccuper de toutes ces autres choses, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin de planifier et de vous y préparer. Quand je vois que mes vêtements commencent à s'user, vais-je ne pas m'en préoccuper, car je prends pour acquis qu'ils me seront remplacés, car je suis juste. Non, vous devez planifier. Mais Jésus a dit qu'il nous faut axer nos priorités sur notre qualification pour le royaume de Dieu, sur le développement de la justice, car c'est de cela dont nous aurons besoin dans le royaume de Dieu à venir. Chaque jour, nos décisions seront prises en tenant compte de cette priorité. Cela va-t-il me préparer pour le royaume? Cela va-t-il me faire progresser dans cette direction? Ou cela va-t-il m'en éloigner? Pour ce qui est de se concentrer sur la justice, nous verrons ce que c'est tantôt. Pourquoi la Bible dit-elle que nous devons rechercher la justice de Dieu? Souvenez-vous, c'est ce que disait Matthieu 6, verset 33. Mais pourquoi devons-nous la rechercher? Le monde ne comprend pas vraiment ce que signifie rechercher la justice. Mais si vous lisiez Psaume 119, verset 137, vous pourriez le comprendre un peu mieux. En gros, il y est dit que nous devons rechercher la justice parce que Dieu est juste, que ses témoignages, ses lois et ses jugements sont également justes. Or, Dieu veut que nous devenions comme lui. Cela dit, pourquoi est-ce important? Pour la réponse, reportons-nous à 1 Jean chapitre 3, au verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu veut que nous nous efforcions de devenir justes afin de pouvoir devenir comme Dieu, penser comme Dieu, agir comme lui le ferait. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, quiconque veut devenir comme Dieu, se purifie comme lui-même est pur. À nouveau, Dieu veut donc que nous devenions justes parce que lui est juste. Il veut que nous devenions comme lui. C'est ce que confirme Philippiens chapitre 2 verset 5, où il est dit, Philippiens 2 verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons donc penser comme Dieu, comme Jésus-Christ, et nous demander comment eux agiraient dans telle ou telle circonstance, car Dieu veut que nous fassions de même. Revenons rapidement à 1 Jean chapitre 3, cette fois au verset 10, un verset auquel nous faisions allusion au début de ce sermon. Lorsqu'on le lit, cela nous donne à réfléchir. Voyons-le. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est ce qui distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Il ne s'agit donc pas ici de quelque chose de nébuleux, mais de quelque chose de précis. À nouveau, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, l'amour est important, mais la justice l'est aussi. Si nous nous efforçons d'être justes et suivons le chemin de la justice, nous sommes en voie de devenir des enfants de Dieu, de faire partie de sa famille. Par contre, si nous suivons un autre chemin, un chemin injuste, nous sommes les enfants du diable. C'est ainsi que Dieu voit les choses. Ce n'est donc pas quelque chose de banal. C'est extrêmement important. Passons maintenant à Éphésiens chapitre 6, où Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, une grande ville charnelle à l'époque de la Grèce antique. Paul y parle d'une guerre spirituelle, une guerre avec un être spirituel, avec Satan et ses démons. Éphésiens 6, versets 11 à 14. Éphésiens 6, versets 11 à 14. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les stratagèmes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mais de quoi est faite cette cuirasse? Pourquoi devons-nous la revêtir? Ce que Paul dit ici, c'est que si nous ne revêtons pas cette armure essentielle, nous allons être vulnérables. Oui, nous allons être vulnérables. Mais qu'est-ce qui caractérise cette chose dont nous devons nous revêtir? Il ne s'agit pas là de quelque chose de virtuel. Non, il s'agit au contraire de quelque chose de tangible. Si nous ne mettons pas cette armure, nous serons vulnérables. Vous savez, il nous faut prendre des décisions tous les jours. Et ces décisions que nous prendrons dépendront du système de valeurs que nous aurons adopté. Si vous n'êtes pas conscient du fait que telle ou telle chose n'est pas convenable, vous allez passer à l'action et l'accomplir. Sinon, si vous êtes persuadé que c'est mal, vous vous abstiendrez de le faire. Quand j'étais enfant, ma mère me lisait souvent des extraits du livre des Proverbes. Par exemple, ce passage de Proverbe 1, verset 10, qui dit « Mon fils, Si des pêcheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Une partie du travail des parents consiste à expliquer à leurs enfants ce qui est mal. L'idée étant qu'en grandissant, ceux-ci vont alors se demander pourquoi c'est mal. C'est ce que tout le monde fait, alors pourquoi est-ce mal? Ainsi, nous devrons leur expliquer très soigneusement ce qui est mal, pourquoi c'est mal, et quelles seront les conséquences qui en découleront. C'est parce que, au premier abord, une chose pourrait paraître passionnante. C'est pourquoi, avant d'agir, nous devrons avoir un système de valeurs en tête pour discerner si c'est mal ou non. Hélas, les enfants et les adultes d'aujourd'hui sont bombardés de messages contradictoires. « Ce n'est pas si grave, tout le monde le fait. Veux-tu avoir beaucoup d'amis? Alors, suis le courant de la société. » Frères et sœurs, soyons très prudents, car si nous n'avons pas un bon système de valeurs, si nous ne savons pas ce que c'est que d'agir selon la droiture, nous allons être très vulnérables. Et puis, ne croyez pas que cette armure dont vous devez vous revêtir pour pouvoir faire preuve de droiture ne concerne que vous. Non, cela concerne tout autant les nations. Reportons-nous pour cela à Proverbe 14, au verset 34, où il est dit, Proverbe 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La justice élève donc une nation. Comprenez que, lorsque nous définissons la justice, nous parlons des lois de Dieu. Lorsqu'une nation suit les lois de Dieu, elle sera bénie, elle sera exaltée. Notez qu'il est ici question de péché. Or, le péché, c'est quoi? Quelle est la définition du péché? Pour la réponse, voyez 1 Jean chapitre 3 au verset 4. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ainsi, lorsque nous enfreignons les lois de Dieu, nous péchons. Vous savez, en grandissant, j'ai entendu plein de choses à propos de ce qu'est le péché. Ce serait boire, danser, jouer aux cartes, jurer, etc. Mais le péché, c'est la transgression des lois de Dieu, des 10 commandements, des statuts et des jugements. Lorsque les nations suivent les lois de Dieu, elles sont bénies. Les choses iront mieux pour elles. Lorsque les nations se détournent de ces lois, les choses vont mal tourner et il y aura de graves conséquences. Ainsi, la droiture est importante pour les individus, mais elle est tout aussi importante pour les nations. Lorsque nous nous en détournons, comme nous le voyons dans nos nations aujourd'hui, il en résultera de lourdes conséquences. Quelle est l'importance de la justice? Si vous cherchez le mot juste ou droiture dans la Bible, vous verrez qu'il y figure entre 400 et 500 fois. Oui, Dieu répète ce qui est important. Il ne s'agit pas là d'une chose insignifiante que nous pourrons nous permettre de rejeter du revers de la main en disant « La justice, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à d'autres choses. » Non, la justice est extrêmement importante pour Dieu. Et, comme nous le verrons, elle est extrêmement importante pour chacun de nous. En résumé, quelle est l'importance de la justice? Elle est extrêmement importante, à tel point que la Bible la mentionne 400 à 500 fois. C'est donc manifestement très important. Voyons maintenant un autre point. Question numéro 2. Qu'est-ce que la justice? Oui, qu'est-ce que la justice? Est-ce simplement le fait d'être présent aux assemblées chaque sabbat? Cela implique-t-il d'être gentil avec les gens? Non, c'est plus que cela. Cela se manifeste par ce que nous rechercherons. Si nous recherchons la justice, que tâcherons-nous de faire? Qu'est-ce que Dieu recherche en nous? Vous savez, pour beaucoup de gens, la justice est un terme vague et à connotation spirituelle. On pensera qu'une personne est juste si elle a des ailes et une auréole au-dessus de la tête. Je plaisante, évidemment. Mais c'est ainsi que beaucoup de gens voient les choses. Souvent, cela se manifestera par l'attitude d'une personne imbue de sa propre justice. Si l'on consulte la définition de la justice dans un dictionnaire, il y sera question de moralité. On parlera d'une personne morale ou vertueuse. Que feront des personnes morales? Ou que ne feront-elles pas? Eh bien, cela dépendra de leur opinion personnelle. Certains diront « Je ne ferai jamais ça », alors que d'autres qui pensent aussi être vertueux diront « Je n'ai aucun problème avec ça ». C'est donc un concept vague. Qu'est-ce qui fera dire qu'une personne est juste? Que faut-il faire pour être considéré juste? Et surtout, que faire pour que Dieu vous considère comme étant juste? Vous savez, nous devons ici avoir des définitions solides, et c'est pourquoi nous en parlons. Évidemment, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Qu'est-ce que l'injustice? Cela n'évoque rien de bon. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'évoque le terme injustice? Il est associé à la notion de péché. Mais qu'est-ce que le péché? Eh bien, les définitions varient d'une personne à l'autre. C'est donc relatif. Là encore, une personne immorale pourrait dire qu'elle ne ferait pas telle ou telle chose, alors qu'une autre n'y verrait pas d'inconvénient. Il est intéressant d'examiner la littérature religieuse à ce sujet, la littérature écrite par des personnes qui se croient chrétiennes. Elles vont parler de la justice comme résultant du fait d'être en bon terme avec Dieu. D'accord, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, diront certains, je vais à l'église, je prie, je suis gentil. Est-ce cela, être en accord avec Dieu, être une personne centrée sur Dieu? Tout cela n'est pas faux, bien sûr, mais que signifie être une personne centrée sur Dieu? Voyons aussi quelques autres opinions exprimées à ce sujet, sur ce qui caractérisera une personne juste. On dira, c'est une personne sans péché, ou une personne qui prie et qui va à l'église. Et voilà un autre point de vue intéressant. La justice est un don de Dieu, si vous croyez en Dieu. Je répète, la justice est un don de Dieu si vous croyez en Dieu. Ont-ils pris cela dans Genèse 15, verset 6, où il est question d'Abraham? Voyons-le. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Je crois que cet énoncé est répété 3 ou 4 fois dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître de Jacques. Il semblerait donc, au premier abord, que le simple fait de croire en Dieu va vous rendre juste. Certes, Abraham a cru aux promesses de Dieu, mais il a aussi obéi à Dieu. Oui, il a aussi obéi à Dieu. Ce n'était pas seulement une question de dire « Je suis juste, car je crois ». Abraham faisait en effet d'autres choses, comme nous le verrons sous peu. De toute façon, cette idée qu'il suffit de croire pour devenir juste ne serait pas conforme aux autres Écritures. En effet, s'il suffisait de croire pour être juste, pourquoi devrions-nous rechercher la justice? Oui, pourquoi devrions-nous alors rechercher la justice? Que nous faut-il faire, donc? Voyons pour cela la définition biblique de la justice. Lisons psaume 119, verset 172, et nous verrons que ce n'est pas vague du tout, c'est en fait très clair. Psaume 119, verset 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Notez-le, tous tes commandements sont justes. Par conséquent, si nous nous revêtons d'une cuirasse de justice, nous allons observer tous les commandements de Dieu. C'est donc en observant les commandements de Dieu que j'assure ma protection. Ainsi, quand quelqu'un cherchera à vous tenter avec quelque chose, votre réaction sera « Non, je ne ferai pas ça, parce que je veux suivre les lois de Dieu. Ce sera ma protection. » Donc, en gardant à l'esprit cette définition fort simple, « Tous tes commandements sont justes, nous assurons notre protection. » C'est ce dont nous bénéficierons en revêtant cette cuirasse. Souvenez-vous également de la définition du péché dont nous avons parlé précédemment. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Oui, le péché correspond à la transgression des lois de Dieu ou à une violation des commandements de Dieu. Voilà ce qu'est le péché. Lorsque nous enfreignons les lois de Dieu, que nous ignorons les instructions de Dieu, nous devenons des pécheurs. Je ne veux évidemment pas utiliser ce sermon pour vous instruire sur la façon de devenir pécheur, car ce que nous voulons, c'est de nous concentrer sur la manière de devenir juste en suivant les lois de Dieu. Voyons à présent Deutéronome chapitre 6, versets 23 à 25, où il est dit la même chose que David dira un peu plus tard. Deutéronome 6, versets 23 à 25. « Et il nous a fait sortir de là, du pays d'Égypte, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Encore une fois, la justice est liée à l'observation des lois de Dieu. Ce n'est pas un sentiment que nous ressentons, c'est ce que nous devons faire. Cela dit, dans la théologie protestante, Jésus a fait tout cela pour vous, il a obéi à toutes les lois, et vous n'avez donc pas à le faire. C'est totalement faux. Cela oriente les gens dans une mauvaise direction. Paul fait quelques déclarations intéressantes dans Romains chapitre 6. Voyons-le, au verset 12 à 16. Paul parle ici de faire des choses très spécifiques. Ce n'est pas vague, ce n'est pas flou. Romains 6, versets 12 à 16. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et encore une fois, le péché est la violation des lois de Dieu. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. C'est-à-dire ne livrez pas vos corps au péché comme des instruments d'injustice, car vous êtes injuste si vous enfreignez les lois de Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, c'est-à-dire livrez vos corps comme des instruments de justice pour Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, en d'autres termes le péché ne devrait pas contrôler vos décisions, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Autrement dit, par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas sous le coup de la loi, car Dieu nous pardonne si nous nous repentons. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Peut-on donc pécher parce qu'on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce? Non, bien sûr. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, oui, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, si nous obéissons aux lois de Dieu, nous sommes sur le chemin de la justice. Nous allons devenir justes. La justice n'est donc pas quelque chose que l'on obtient simplement par notre croyance en Dieu. Cela dépend de ce que l'on fait, de ce que l'on accomplit. Donc, si nous obéissons aux lois de Dieu, nous sommes sur le chemin de la justice. Tournons-nous à présent vers 2 Pierre chapitre 2, verset 21, et laissons la Bible nous définir certaines de ces choses. Il y est question de personnes qui ont péché et qui se sont détournées de Dieu. 2 Pierre 2, verset 21. « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il existe un chemin de la justice, et les Écritures en parlent de diverses manières. Ainsi, elles parlent d'un chemin vers le salut, d'un chemin vers la justice, d'un chemin de justice. Il s'agit d'apprendre à vivre selon les lois de Dieu. Oui, apprendre à vivre selon les lois de Dieu, et nous allons être bénis si nous adoptons ce mode de vie. Ainsi, parler de droiture, c'est parler de suivre les commandements de Dieu, d'en faire le guide de notre vie. C'est conforme à ce qui est dit dans Psaume 119, verset 172, car tous tes commandements sont justice. Par conséquent, chaque fois que vous rencontrerez le mot justice, mettez-vous à penser, ce sont les commandements de Dieu. C'est simple, très simple. S'efforcer de garder les commandements de Dieu nous placera sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Si nous remplaçons cela par d'autres choses, comme « il faut que j'aille à l'église, que je sois gentil », nous n'arriverons pas à la vie éternelle. Nous manquerons notre but. Voilà, nous avons ainsi défini ce qu'est la justice. Question numéro 3. Quels sont les avantages de la justice? Oui, quels sont les avantages de la justice? Pourquoi voudrions-nous être justes? Notre société contemporaine pense que ce sont les gens qui enfreignent les lois qui jouissent d'une vie vraiment excitante. C'est comme dans les écoles, où les enfants les plus influents, ceux que tout le monde admire, le sont parce qu'ils font ceci et cela. Du moins, c'était ainsi quand j'étais à l'école. Et je ne sais pas si c'est si différent aujourd'hui. Mais pourquoi voudrions-nous être vertueux? Pourquoi voudrions-nous, entre guillemets, passer à côté de la vie en nous efforçant d'être justes? C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont quitter l'Église, pensant qu'il y a des choses plus excitantes ailleurs. On dira, « Je vais m'amuser. Si je reste ici, à la maison, je n'aurai pas le droit de faire ceci ou cela. Mais si je sors, ça va être vraiment cool. » C'est un mensonge. Oui, un mensonge. D'où vient cette idée qu'il faut renoncer à tout ce qui est amusant pour être juste? Pourquoi ferions-nous cela? Laissez-moi à présent vous donner quelques passages bibliques que vous pourrez consulter un peu plus tard. Cela vous permettra de méditer sur le sujet. Psaume chapitre 11, verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu aime voir les gens faire les choses de la bonne façon. Vous qui avez des petits-enfants à la maison et que vous les voyez jouer, quand allez-vous les corriger? Ce sera quand ils feront des choses que vous n'approuverez pas. Ainsi, s'ils brisent des choses, s'ils disent certaines choses, ou s'ils se battent, vous interviendrez en disant « Ne faites pas ça ». Mais s'ils font ce qui est bien à vos yeux, vous allez sourire et dire « Bravo, cette fois tu as bien agi, je suis content de toi ». De même, Dieu aime la justice, il aime les actes justes, il aime voir les gens faire les choses correctement. Je me souviens de cette fois où Scott, notre fils aîné, avait environ 2 ans. Nous étions dans notre maison et je lui avais demandé à un moment donné de mettre certains déchets dans la poubelle. Il avait commencé à marcher depuis peu. Il s'est alors rendu à la cuisine en se dandinant, puis nous avons eu connaissance que la petite porte sous l'évier s'ouvrait, et avons entendu quelque chose tomber dans la poubelle. Après cet exploit, il nous est revenu pour se faire dire « Bien, Scott, très bien !» Cela l'a rendu si heureux qu'il a foncé droit dans le mur. Dans sa joie d'avoir été loué, il avait complètement oublié la présence de ce mur. Dieu aime donc nous voir faire des choses justes. Par exemple, lorsque nous disons des choses gentilles aux gens, ou que nous observons le sabbat alors que c'est difficile, il voit que nous prenons la bonne décision, que nous faisons les choses correctement. Dieu veut que nous lui ressemblions. Il aime les actes justes. Il est juste. Il veut que nous devenions comme lui. Je lisais récemment le psaume numéro 1 qui nous vient du roi David, qui avait compris les avantages de la justice. C'est un bon psaume à lire en tout temps, parce qu'il nous décrit 2 modes de vie très différents. Adam et Ève n'ont apparemment jamais eu cette perspective qu'avait David. Lisons-le rapidement. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici, le terme « heureux » qui nous vient de l'hébreu, signifie être envié. Oui, les choses vont mieux lorsqu'une personne ne suit pas le conseil des impies ou des pécheurs qui ne se soucient pas de la loi de Dieu. À nouveau, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, quand vous commencez à observer le sabbat et à observer les jours saints, les gens peuvent se moquer de vous, mais bientôt cela va se retourner contre eux. Poursuivons. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Une telle personne se réjouira des lois de Dieu. Elles ne seront pas une corvée pour elle. Elles ne l'empêcheront pas de s'amuser. À nouveau, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Une telle personne pensera à la loi de Dieu, à comment l'appliquer pour prendre une décision. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cela fait partie des avantages de faire les choses à la manière de Dieu. Vous serez bénis. Les choses iront mieux pour vous. Cela me rappelle l'époque où je roulais dans l'Ouest, dans les États du Colorado et du Wyoming. À une certaine période de l'année, lorsque vous traversez les montagnes, vous avez ce spectacle féerique des trembles dont les feuilles tournent au jaune vif. Ils sont partout. Or, il est bien connu que ces arbres prolifèrent là où vous avez une source d'eau abondante. Donc, lorsque vous apercevez de tels arbres à perte de vue, vous savez que l'eau ne manque point. Et c'est ce à quoi David faisait allusion. Si vous faites les choses à la manière de Dieu, vous serez comme un arbre au bord de l'eau qui va grandir et fleurir. Il en sera ainsi de ceux qui font la volonté de Dieu. Quoi qu'ils fassent, ils prospèrent. Il n'en sera pas de même pour les injustes, les impies, les gens qui n'aiment pas les lois de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 1, au verset 4 à 6. Voyons-le. Psaume 1, verset 4 à 6. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils seront réduits en cendres sous les pieds des justes au jour du jugement. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Oui, il observe et prend note des gens qu'il voit agir selon ses commandements. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. David a donc compris les avantages qui découlent de la justice. Tournons-nous maintenant vers Psaume chapitre 34, où il y a plusieurs versets qui parlent des bénédictions, des avantages qu'on retire de pratiquer la voie divine. Je me souviens qu'à l'époque où nos garçons grandissaient, à plusieurs reprises durant la fête, je les faisais asseoir et leur disais « Écoutez les gars, je suis conscient que vous manquez l'école en étant ici. Je pense que nous ferions mieux de rentrer à la maison. » Ils avaient alors aussitôt répliqué « De quoi parles-tu, papa? C'est amusant ici. » Évidemment, ce stratagème de ma part n'avait pas d'autre but que de leur faire réaliser les avantages qu'ils retiraient de la fête et de leur faire apprécier ce qu'ils y faisaient. À un autre moment, alors que nos préparatifs pour la fête étaient engagés, je les avais soumis à un petit test disant « Écoutez les gars, faisons une petite expérience cette année. N'allons pas à la fête et célébrons plutôt Noël à la place. Qu'en pensez-vous ? » À cela, l'un des garçons avait spontanément manifesté son désaccord, faisant valoir que Noël ne dure qu'un jour, alors que la fête dure 8 jours. « Papa, avait-il dit, tu peux bien observer Noël si tu veux, mais tu perdras au change. » À nouveau, je voulais qu'ils apprécient les bénédictions qui viennent de faire les choses à la manière de Dieu. Psaume 34, versets 14 à 22. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Oui, Dieu regarde les justes et il entend leurs prières. Il se peut qu'ils n'y répondent pas immédiatement quand nous le voulons ou comme nous le voulons. Mais il veut nous faire comprendre, « Écoute, je t'entends, je me préoccupe de toi. Nous trouverons une solution. » Poursuivons. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Oui, lorsque nous faisons les choses à sa manière, il va entendre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Romains chapitre 8, verset 28, quant à lui, dit que « toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu et qui font ce que Dieu veut qu'ils fassent. » Psaume 34, verset 19 à 22. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, nous aurons des épreuves et des tribulations. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. J'ai eu quelques os cassés, certains d'entre vous en ont eu eux aussi, mais nous nous en sommes sortis. Dans certains cas, nous avons fait des choses stupides avant de nous casser quelque chose. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Dieu dit donc qu'il est ouvert aux cris des justes, qu'il les observe, qu'il est attentif à eux, qu'il veille sur eux. On pourrait également insérer ici cet autre passage des Écritures, Hébreux 12, versets 5 à 8. Oui, Dieu aime ceux qu'il châtie. Il permettra parfois que des choses nous arrivent pour nous aider à apprendre certaines leçons. Dans d'autres cas, ce sera pour nous préparer à des responsabilités encore plus grandes à l'avenir. Lorsque certaines choses nous arrivent, nous pourrions nous demander, Dieu, pourquoi as-tu laissé cela se produire? Comprenez qu'il nous prépare à des emplois dans le royaume de Dieu à venir. À moins d'être passé par certaines épreuves, nous pourrions être amenés à nous asseoir à côté de quelqu'un pour devoir lui dire, écoute, je ne comprends pas de quoi tu parles. Par contre, si nous sommes passés par de telles épreuves et avons vu comment Dieu est intervenu, nous pourrons dire, écoute, j'ai eu moi aussi à faire face à ce genre de problème, et voici comment Dieu m'a aidé à en sortir. Ainsi, Dieu permet que nous passions par certaines épreuves, car il nous prépare pour des responsabilités que nous aurons en tant que leaders dans son royaume à venir. Acceptons donc de passer par des problèmes et des moments difficiles. Apprenons à les gérer. Soyons assurés que Dieu nous voit, qu'il nous entend et qu'il interviendra au moment opportun pour nous aider à traverser cette épreuve. Voyons aussi psaume 58, puisque nous sommes dans les psaumes. Il y est question de ces avantages qui sont réservés à ceux qui font la volonté de Dieu. Et il est bon que nos enfants le comprennent et s'en souviennent. Psaume 58, versets 11 et 12. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance, celle de Dieu. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, « Oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » On voit donc qu'il y aura une récompense pour les justes. Et quelle est cette récompense? Eh bien, dans 2 Timothée chapitre 4, Paul, arrivé au terme de sa vie et cherchant à encourager Timothée, lui dit, 2 Timothée 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, ou qui attendent son apparition en s'efforçant d'être juste. » Pour sa part, Jean mentionne lui aussi, dans le livre de l'Apocalypse, « Ne laissez personne prendre votre couronne. Tiens bon, endure jusqu'à la fin. Mener une vie de juste est donc d'une grande importance. » C'est aussi ce qui est dit dans Proverbe chapitre 10. Voyons-le. Proverbe chapitre 10, versets 24 et 25. « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ainsi, le désir du juste sera exaucé. Quels sont vos désirs? Vont-ils être en harmonie avec le plan et le dessein de Dieu? » Je me souviens d'avoir suivi un cours lorsque je suis retourné aux études pour obtenir une maîtrise en santé publique. Nous avions des jeunes gens dans la classe qui étaient dans leur vingtaine, voire dans leur trentaine. Nous avions aussi une fille du Pakistan et des enfants d'Afrique, bref, des gens du monde entier. Et je me suis alors dit que j'aimerais vraiment aller un jour dans certains de ces pays. Eh bien, mon vœu a été exaucé, car depuis, j'ai fait le tour du monde 4 ou 5 fois. Oh, il ne s'agissait pas d'un voyage d'agrément, ni de vacances. Mais le fait est que j'ai pu voir bien des pays, et c'était passionnant. Oui, Dieu sait quels sont nos désirs, et si nous parvenons à harmoniser nos désirs avec ses objectifs, alors attachez vos ceintures. Vous les jeunes parmi nous, pensez grand. Pensez à ce que vous pourriez faire pour vous rendre un jour utile à l'œuvre. Quelles sont les compétences que vous pourriez développer et que Dieu pourrait utiliser? Permettez-lui de travailler avec vous. Il est dit que Dieu remarquera les désirs des justes et que les désirs des justes seront exaucés. Alors, pensez-y. Que pourriez-vous faire pour glorifier Dieu? Que pourriez-vous faire pour développer des talents et des capacités que Dieu pourra utiliser. Vos désirs seront exaucés. Voyons Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10, versets 27 à 32. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Si vous craignez Dieu, vous prendrez soin du corps que Dieu vous a donné. Si vous ne craignez pas Dieu, vous en abuserez. Quelqu'un m'a dit, « Tu sais, en vieillissant, on ne rebondit plus aussi haut que l'endroit d'où on était tombé. De fait, il se peut même que l'on ne rebondisse plus. Il nous faut donc prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Quand on est jeune, on peut abuser de son corps pour un temps, même le pousser à l'extrême. Mais si vous continuez à agir ainsi, les choses s'useront plus vite. Par exemple, si vous avez un poids excessif, vos articulations seront soumises à une forte pression et elles s'useront plus vite. Mais si nous craignons Dieu, nous prendrons soin de ce qu'il nous a donné. Ainsi, vous n'allez pas boire à l'excès, vous n'allez pas fumer, vous n'allez pas vous droguer, vous n'aurez pas de relations sexuelles illicites. Tant de choses que vous éviterez, car vous ferez les choses à la manière de Dieu. À nouveau, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants seront abrégées. Vous savez, pour ce qui est des gens qui s'engagent dans des styles de vie gays et des relations homosexuelles, il a été prouvé que leur durée de vie est d'environ 20 ans plus courte que celle des gens qui ne font pas ces choses. Ces déclarations ne sont donc pas seulement à propos de choses spirituelles, elles auront aussi une incidence sur votre vie charnelle. Verset 28. Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie. Si vous désirez faire les choses à la manière de Dieu, vous lui demanderez de vous guider, et cela vous apportera de la joie et non de la tristesse. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Verset 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Ainsi, si vous faites les choses à la manière de Dieu, vous serez fort. Vous insisterez pour faire ce qui est bien. Vous direz, « Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas emprunter cette voie. » Cependant, on évitera de le faire de manière moralisatrice en s'exclamant haut et fort, « Jamais je ne m'abaisserai à faire ce genre de choses. » Non, on dira simplement, « J'ai d'autres choses à faire. » À nouveau, la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal, c'est-à-dire pour les pécheurs. Verset 30, « Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Les premières blagues de mauvais goût que j'ai entendues venaient d'un camp de vacances auquel j'avais pris part il y a bien longtemps. Oh, ce n'était pas un de nos camps de l'Église, bien sûr, mais un autre. Je me souviens que quelqu'un avait émis l'opinion que celui qui est en mesure de raconter de telles blagues est vraiment cool. Vous savez, de nos jours, il faut être sur le qui-vive, car notre système de valeurs est en train de s'effondrer. Verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Oui, les lèvres des justes savent ce qui est acceptable. Ils feront preuve de discernement. Ils diront, « Ce n'est pas quelque chose que je devrais faire. » Ni maintenant, ni jamais, au contraire de ceux qui cherchent à se justifier disant « Que voulez-vous, c'est ainsi que je suis », alors que ça reflète au contraire ce que nous ne devrions pas être. À nouveau, les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants, la perversité. Voilà quelques-uns des avantages qu'il y a à faire les choses à la manière de Dieu, selon ce que dit Proverbe chapitre 32. Proverbe 3, verset 32 dit également « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » À noter que d'autres versions disent « Mais son conseil secret est avec les hommes droits. » Et effectivement, Paul parle de mystère dans 1 Corinthiens chapitre 2, où il est dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Oui, le monde ne comprend pas quel est le but de la vie humaine. Le monde ne comprend pas qu'il existe un chemin qui mène à la paix et que celui-ci ne passe pas par le désarmement et un tas de choses de ce genre. La paix s'obtient par une voie très différente. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Monsieur Armstrong en a beaucoup parlé. Le monde ne le sait pas. Il ne sait pas pourquoi nous sommes ici. Il ne connaît pas de méthode qui fonctionne. On a vu tantôt dans Proverbe 3, verset 32, « Mais son conseil secret est avec les hommes droits ou justes, c'est-à-dire avec ceux que Dieu a appelés et avec lesquels il travaille, avec ceux qui veulent commencer à faire les choses à sa manière. » Examinons encore cet autre passage des Écritures qui est significatif. C'est l'un des derniers chapitres de l'Ancien Testament. Il se trouve dans Malachie, chapitre 3. Malachie 3, au verset 14 à 18. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Oui, on est stupide si l'on suit la Bible, disent les critiques. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Autrement dit, ils se moqueront de ceux qui pensent qu'ils seront bénis pour avoir observé ses lois. Verset 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Notez que votre nom sera écrit dans un livre si vous craignez Dieu et si vous méditez sur sa parole jour et nuit. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous avons été appelés à devenir des justes, à devenir des joyaux dans le plan et le dessein de Dieu. Ce sera notre récompense. C'est l'avantage de devenir juste. Il y a donc des avantages incroyables à vouloir devenir une personne juste et à persévérer dans cette voie. D'accord, mais comment devient-on juste? C'est là notre quatrième point. Question numéro 4. Comment devient-on juste? Que devons-nous faire pour acquérir la justice? Il ne s'agit pas seulement de croire. Nous devons bien sûr croire que Dieu existe. Nous devons nous le prouver à nous-mêmes. Mais pour devenir juste, il ne suffit pas de croire et d'attendre d'être étiqueté comme juste. Matthieu 6, verset 33 nous dit de « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Notez qu'il nous faut le chercher. Il nous faut donc faire un effort. Mais qu'est-ce que cela implique? Pour la réponse, allons à Matthieu chapitre 5, verset 6, où Jésus dit, Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le mot « heureux » qui nous vient du grec a le sens d'être envié. Une personne qui a faim et soif de justice a tout lieu d'être envié. Si vous avez faim et soif de justice, vous allez activement rechercher ce qui vous permettra de l'atteindre. Mais qu'est-ce que cela implique? Revenons à Proverbe chapitre 2 pour une analogie. Salomon y parle de sagesse. Je me souviens que lorsque je suis entré dans l'église, j'avais lu qu'il nous faut prier pour la sagesse. Je me suis donc mis à prier pour la sagesse. Mais même après avoir prié pour elle, en me réveillant le lendemain matin, je ne me sentais pas plus sage qu'avant. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait d'autres choses à faire que de prier. Mais revenons-en à l'analogie que je voulais établir. Libre à vous de lire tout le chapitre 2 de Proverbes par vous-même. Proverbes 2, verset 1. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, on a donc intérêt à écouter, et si tu gardes avec toi mes préceptes, autrement dit, ne les prends pas à la légère, mais garde-les précieusement. » Demande-toi, pourquoi a-t-il dit cela? et de cette façon. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, autrement dit, si tu fais attention à ce qu'on dit, si tu cherches à recevoir des conseils, cela me rappelle cette fois où je suivais en ligne les débats du club d'orateurs d'Atlanta. Celui qui animait les débats ce jour-là avait proposé le thème suivant. Avez-vous reçu un conseil dans le passé qui a profondément changé votre vie? J'avais trouvé cette question fort intéressante. Vous pouvez sans doute fouiller dans votre mémoire et en tirer certaines leçons qui vous viennent d'expériences passées. Et vous, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un pour que cela change sa façon de vivre? À nouveau, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, avez-vous à cœur de comprendre? Il m'est arrivé de lire un livre de la reine Noor, la femme qui a épousé le roi Hussein, et je crois qu'il s'intitulait « La vie inattendue ». Elle ne s'attendait pas à devenir reine, mais à l'université, les autres filles pouvaient noter qu'elle avait quelque chose de différent, qu'elle n'aimait pas les fêtes, qu'elle n'aimait pas se livrer à des poursuites vaines. Un jour, elle avait demandé à sa grand-mère, « Grand-mère, que dois-je faire ?» pour vivre une vie qui en vaille la peine. Combien d'entre vous, qui avez 16 ou 17 ans, poseriez-vous une telle question, que vous soyez un garçon ou une fille? Pensez-y. Où voudrez-vous être dans 60 ans, lorsque vous aurez mon âge, si c'est là le temps qu'il nous reste? Qu'aimeriez-vous faire d'ici là? Que vous faudrait-il faire pour y arriver? Réfléchissez à de telles choses. Verset 3. Proverbe 2, verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et nous venons de lire un passage qui dit qu'une personne juste sait ce qui est acceptable, elle sait ce qui est approprié, elle est capable de discernement, elle recherche l'intelligence et la sagesse. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, verset 5, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, Dieu protégera et délivrera les justes. Voilà la récompense. Voilà les avantages que nous en retirerons. Il nous faut donc rechercher toutes ces choses. Vous pourriez aussi lire le psaume 119, des versets 97 à 110. David y dit notamment, psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Oui, dit-il, j'y pense toute la journée, je l'incorpore dans ma vie. Plus loin, au verset 106, il dit aussi, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » David parle évidemment ici des lois de Dieu, des commandements de Dieu, et nous savons que ces commandements de Dieu nous enseignent la justice. Ils nous orientent dans cette direction. La justice ne s'acquiert donc pas en croyant passivement. Il ne suffit pas de dire « Je crois en Dieu, donc tout ira bien ». Non, nous devons faire ce que Dieu dit. Nous devons observer ses commandements. Devenir juste exige d'être actif. On ne peut pas se contenter d'être passif. Il faut être proactif. Nous avons eu un certain nombre de sermons sur la justice. Ainsi, Dr. Meredith a donné plusieurs sermons qui avaient pour thème le gouvernement juste et le jugement juste. Vous pouvez aller sur notre site web et taper « justice », ce qui vous permettra de trouver tout cela. M. Ames, quant à lui, a donné un sermon sur la façon de rechercher la justice de Dieu. Et puis M. Nathan en a donné un sur la faim et la soif de justice. Pour sa part, je crois que M. Strain en a donné un sur les principes du caractère juste, et il y en a probablement d'autres. Ce sont là des choses dont nous devons parler, des choses auxquelles nous devons réfléchir et sur lesquelles nous devons faire nos propres études. Comme je l'ai dit, si vous faites votre propre étude biblique sur la droiture et la justice, cela vous ouvrira les yeux. Bon, terminons à présent en parlant de l'objectif de la justice. Question numéro 5. Quel est le but de la justice? Pourquoi devrions-nous devenir justes, en plus d'être comme Dieu? Comment allons-nous utiliser cette justice? Pourquoi en avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous ne pourrons pas faire si nous ne l'avons pas? Dans Ésaïe 9, versets 6 et 7, il est dit, et vous pourrez le vérifier plus tard, que le Christ va revenir et mettre en place un gouvernement mondial. Il est dit aussi qu'il reviendra en tant que prince de la paix. En effet, Ésaïe 32, verset 17 dit, Ésaïe 32, verset 17, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Encore une fois, pensez à ce qui a été dit précédemment. La justice, c'est observer les commandements de Dieu. Lorsque le monde apprendra à observer les commandements de Dieu, il connaîtra la paix. Ce n'est pas une chose vague, un concept nébuleux. Nous allons vraiment faire emprunter aux gens une direction précise. Ésaïe 2, verset 3 énonce que « Car c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Oui, les lois de Dieu vont être proclamées à partir de Jérusalem, et nous allons les enseigner aux gens dans le monde entier. Ésaïe 30, versets 20 et 21. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Ésaïe 11, verset 9 dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, une connaissance de la voix de Dieu et de ses lois. » Ésaïe 26, verset 9 « Les habitants du monde apprennent la justice. » Oui, les habitants du monde entier vont apprendre la justice. On parle ici de la Chine, de l'Afrique, de la Russie, de l'Amérique du Sud, des États-Unis. Tous vont alors apprendre la justice, les lois de Dieu. Ésaïe chapitre 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Le monde entier verra et goûtera la justice de Dieu. Cela va se répandre à partir de Jérusalem, et vous et moi allons avoir l'occasion d'y participer. Il nous faut donc nous y préparer. Pour terminer, passons à un autre passage des Écritures, cette fois dans Daniel chapitre 12. La justice est un thème qui parcourt littéralement la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Daniel 12 parle de choses qui se produiront à la fin de l'âge, et cela devrait nous passionner. Voyons donc, Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, on en parlait tantôt lorsqu'il était question de ces justes dont le nom serait inscrit dans le livre de vie. Eh bien, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront suivi le mode de vie divin, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si nous nous efforçons de devenir justes, d'apprendre à faire les choses à la manière de Dieu, voilà notre avenir. Briller comme les étoiles du firmament pour toujours et amener beaucoup de gens à la justice. Quelle vocation incroyable! En conclusion, la justice n'est pas un concept spirituel vague et nébuleux. Ce n'est pas quelque chose que l'on mettra en veilleuse et que l'on laissera percoler. La justice est mentionnée 400 à 500 fois dans les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est donc extrêmement important pour Dieu, et il est donc extrêmement important pour nous d'avoir ce concept clairement à l'esprit. Le concept de justice est explicitement défini dans la Bible. Elle dit « Tous mes commandements sont justes », et cela nous permet de comprendre ce concept de justice. Cela implique d'obéir à Dieu. Se revêtir d'une cuirasse de justice signifie donc que vous allez obéir aux lois de Dieu et que vous vous attendez de lui qu'il vous protège. Vous attendrez de Dieu qu'il intervienne en votre faveur. Si nous ne pratiquons pas la justice, si nous ne mettons pas les lois de Dieu en pratique chaque jour, nous ne sommes pas vraiment des enfants de Dieu, mais des enfants de quelqu'un d'autre, qui n'aime pas les lois de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, il y a des avantages incroyables réservés à ceux qui rechercheront activement la justice de Dieu. Ils seront des rois et des sacrificateurs dans son royaume à venir. Ils enseigneront au monde le chemin de la paix. Ils enseigneront au monde une meilleure façon de vivre. Telle est l'importance de rechercher la justice de Dieu.